présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Ses études, parce qu'il a l'air très bien, ce jeune. Je ne crois pas qu'il en ait. Alors sa famille doit être très fortunée. Je ne le pense pas. Il hausse ses épaules, lui dit. Tu es ridicule. Comme il est habillé, j'ai envie de le revoir. Dis-lui de venir me voir. Un de ces jours ici, un après-midi. Il m'accompagnera au Jockey Club. Elle lui dit, mais n'en fais pas partie. Avec la mine qu'il a, il ne peut qu'en faire partie. Alors, amène-le-moi. Elle lui dit, comme tu voudras, mon ami, comme tu voudras. Elle se dit que son mari est toqué. Elle revoit Luke aux courses, elle lui dit « Mon mari vient absolument te voir un de ces après-midi. Il veut même te mener au Jockey Club. Et là,
c'est bon, ce qui
gagne une langue. Et pourquoi veut-il me voir ?» Elle lui dit « N'en sais rien. Peut-être pour mieux te connaître, pour mieux connaître l'ami de sa femme, j'ai pas tellement envie d'y aller. » Elle lui dit, il serait plus sage d'y aller, de venir un de ces après-midi chez lui. Elle lui dit, tiens, mais je n'y tiens pas. Et à quelle heure? Elle lui dit, disons à 15h. demain si tu veux. Comme ça, il aura le temps d'aller au Jockey Club avec toi, s'il y tient. Mais ne lui en parle pas. Surtout, ne lui en parle pas. Tu lui dis, viens. Et à 15h, il va sonner ses matines. Il a ouvert un valet. Elle lui dit, j'ai rendez-vous avec votre maître. Vous êtes monsieur? Yann Terman. Bien, je vais voir monsieur. Et le valet le laisse. Puis il revient. Oui, monsieur le comte veut bien vous recevoir et vous attendez. Veuillez me suivre, monsieur. Et il mène Yann au salon du premier étage. Yann connaît déjà la maison. Le valet fermé a tapé à la porte. Entrez! Il entre et fait entrer Yann. Monsieur le comte est debout au milieu du salon. Il dit à Yann, bonjour monsieur Terman. Monsieur le comte, approchez-vous, je vous en prie. Yann s'approche. Yann le regarde, le comte le regarde et lui dit, venez vous asseoir mon ami. Il le mène s'asseoir dans un coin du salon où il y a des fauteuils en cuir marron style anglais. Il lui demande, vous désirez boire quelque chose? Oui, merci. Un bourbon, un cognac, du bourbon. Il va chercher la boisson. Une carafe et deux verres. Tenez, merci. Après avoir fait le service, il s'assoit en face de Yann. Le comte lui dit, vous êtes le chevalier servant de ma femme. Yann lui dit, oui, disons un ami. Je sors beaucoup avec votre femme pour la distraire.
Je sais, je suis très occupé et ne puis être souvent près d'elle. Je suis content qu'elle ait trouvé une personne pour s'occuper d'elle. Les femmes, elles, aiment être entourées. Que faites-vous dans la vie?
Rien.
Vous vivez de vos rentes?
Yann lui dit gêné, si l'on veut.
Le comte lui dit, je vois de vos charmes. Ce doit être assez pénible.
Yann lui dit, oui, assez, il faut toujours être disponible, en forme.
Le comte lui dit, ah, bon, pourquoi?
Non, c'est pas pour ce que vous croyez, ça, on ne le fait pas. Et puis, il ne faut pas, parce que si l'on fait, si on va jusque-là, on n'est plus aussi disponible.
et ça devient dangereux. Il faut aller juste avant la chose, exciter la personne sans aller en avant. Comme ça, la personne est toujours en manque. Quand tu demandes « Et ma femme est en manque de vous ?» Non, elle, elle est très sage et ne demande qu'un ami. Elle n'a jamais cherché plus, ça n'intéresse pas.
Je le sais, Lars. Je sais que ma femme est très satisfaite de vos relations. Est-ce que vous avez d'autres relations ?
Yann lui dit, j'ai d'autres connaissances, oui. Lorsque l'on fréquente le tout Paris, on commence par être connu. Alors j'ai un carnet d'adresses bien rempli.
Le comte lui demande toutes ces connaissances ne vous aident pas à trouver une autre occupation?
Et elle lui dit, j'ai des connaissances, mais qui ne servent pas à me donner d'autres occupations, ou même bien, mais que pour le plaisir, le futile.
Je vois.
Le comte hésite. Est-ce que il vous est déjà arrivé, c'est que vous vous occupiez de messieurs?
Yann lui dit, non. Et ça vous gênerait?
Ce n'est pas de ma partie.
Le comte lui dit, vous vous occupez bien de ma femme. Pourquoi pas ne pas sortir avec moi? Être mon compagnon, ce serait une bonne solution.
Yann lui dit, mais vous avez déjà, je crois, une personne.
Le comte lui dit, cette personne n'est pas tout à fait ce dont j'ai besoin. J'aimerais bien d'une personne comme la vôtre. Nous pourrions sortir ensemble, aller au bain turc, aux courses, faire un peu de sport, voyager. Oui, voyager.
Yann lui dit, mais si l'on nous voit toujours ensemble, cela risquerait de faire jaser.
Qu'importe, je dirais que vous êtes mon cousin.
Yann lui dit, je ne sais pas. Le comte lui dit,
peut-être. Mais je suis sûr que vous avez le temps.
Il lui tend un billet et lui dit,
tenez, ça vous permettra de vous payer un fiacre et des cigares.
Yann le prend, le comte lui dit,
voyez bien que vous avez le temps.
Yann lui dit, mais, et votre femme?
Ma femme, elle me permettra, elle nous permettra de nous voir de temps en temps.
Yann lui dit, vous pourriez peut-être prendre une autre personne?
Le comte lui dit, non, je ne crois pas, vous êtes la personne que je veux.
Il se lève et lui dit,
venez, nous allons aller dans ma chambre, j'aime changer, vous m'aiderez. Yann est furieux. Il se dit qu'on le prend pour ce qui n'est pas, mais n'ose pas dire non, parce que l'autre risque peut-être de faire un scandale, comme il est avec sa femme. Le comte lui dit,
mon cher, j'ai fait une enquête sur vous.
Excusez-moi.
C'est normal, parce que vous voyez ma femme.
Paraît
que vous venez de Marseille et que là-bas, vous avez eu une vie, disons, dissipée, et que l'on vous recherche, que vos amis vous recherchent. Diane tique et lui demande, comment avez-vous su ça? Le comte lui dit, je me suis renseigné jusqu'à votre immeuble. Vous avez une concierge, une dénommée Terrier. Brave femme. Elle m'a dit des choses sur vous qui lui avaient été dites par la bonne de sa maîtresse. Celle qui vous a récupéré du train. Sans un sou, votre maîtresse est l'amie de ma femme. Officiellement, elle tient une boutique de mode, mais offre beaucoup de services à ces dames. Alors, comme j'ai su que vous veniez de Marseille, j'ai demandé au préfet de cette région de voir un peu sur vous. Il a fait une enquête et m'a donné des renseignements. Joueur, tête, relation peu reluisante, fuite en avant, peut-être même crime. Avant Marseille, vous venez d'un pays à demi sauvage, rien de bien reluisant. Vos relations seraient surprises de savoir tout ça. Diane, Zéné lui demande, et qu'allez-vous faire? Le comte lui dit, ne croyez pas que je vais vous donner dénoncer à ceux qui vous recherchent. Non, mais à vos nouveaux amis, je pourrais dire qui vous êtes vraiment. Ça pourrait les surprendre. Et que diraient vos femmes? Je vous dirais que ça ne me gêne pas du moment que vous vous occupiez de ma femme. J'aime mieux qu'elle ait un ami que je connaisse, même s'il n'est pas très fréquentable, qu'un inconnu. Vous, moi, je sais où vous prendre. Et si vous arrivez à temps, vous arrêtez aussi à temps. Yann se dit qu'à la moindre occasion, je suis perdu. Je le tuerai à la même occasion. Il va me faire chanter celui-là. Le comte lui dit. Ne faites pas cette tête-là, mon cher. Nous avons tous un passé. Et puis, nous sommes à Paris. Yann Furieux se lève. Et suit le comte. Le comte le mène à sa chambre. Entrez. Une fois dans sa chambre, il lui dit, j'ai envie de me détendre. Déshabillé, moi. Luc est furieux et commence à le déshabiller. Le comte lui dit, une fois qu'il lui a enlevé ses vêtements, déshabillez-moi complètement, je vais prendre un bain. exécute. Ne fais pas attention à ce qu'il fait. Je vois qu'il est nu, ça le dégoûte. Le comte lui dit,
vous aussi.
Yann est rouge de honte. Il se déshabille en vitesse. Reste debout devant le comte. Le comte lui dit,
nous allons dans la salle de bain.
Une fois dans la salle de bain, il lui demande,
faites couler de l'eau. Ce produit de bain dedans.
Puis le comte entre dans la baignoire et s'allonge.
Prenez l'éponge et lavez-moi.
Yann le fait.
Lavez-moi. Les cheveux. Là. Faites bien mousser. Maintenant, le dos. Là. La poitrine. Plus bas. Le ventre. Plus bas. Allez. Plus bas.
Yann retire la main. Le comte lui prend la main et la guide.
Là, voilà, ça va, c'est ce que je veux.
Yann se dit, salaud, tu le payeras. Le comte se détend de plus en plus et commence à jouir. Furieux, lâche le membre et de ses deux mains, il enfonce la tête du comte dans l'eau. Le comte se débat, mais Yann lui maintient bien la tête dans l'eau. Et même pour bien le maintenir, il entre dans la baignoire. Et met ses genoux sur ses épaules. Ce qui fait descendre aussi le corps. Puis le maintient en mettant la tête bien sous l'eau. Avec ses deux mains. Le comte gigote. Essaye de sortir de l'emprise de Yann. Mais Yann, pris de fureur, le maintient bien. De toutes ses forces sous l'eau. Les mouvements du comte vont gigoter et gicler l'eau de partout. Yann, de toutes ses forces, maintient bien la tête sous l'eau. La tête gigote. De moins en moins. Des éclairs diminuent. Le comte bouge de moins en moins. Yann sent de la mollesse. Un bon coup. sur la tête. Et la maintient sous l'eau suffisamment. Il sent le ramollissement du corps et de la tête qui ne bouge plus. Yann est en sueur. Il maintient la tête sous l'eau et lâche. Elle remonte à la surface molle, le visage ramolli, les yeux horrifiés, la bouche ouverte, ne bouge plus. Yann est dégoûté et vite sort de la baignoire, essoufflé. Souffle un moment. Vois le corps qui flotte dans la baignoire, l'eau sur le carrelage. Lui, nu, ruisselant, souffle. Il ne sait plus, il est fatigué. Il se dit qu'il vient de tuer une personne. Il a tué. Elle l'a mérité. Mais il a tué une personne. Et c'est un conte. Il ne faut pas qu'il perde son sang-froid. Il ne faut pas que quelqu'un le voie et se fasse prendre. Surtout pas. Réfléchis une seconde. Il se dit qu'il ne peut pas rester ici. Il faut qu'il s'en aille. Et le plus vite possible. Et le corps. Et on sait qu'il a tué le comte. Il faut qu'il s'en aille. Oui, il ne peut rien faire de plus. Il ne peut pas cacher le cadavre. Tant pis. Tant pis. Il faut partir, quitter Paris. Parce que la police risque de le chercher. Vite. Il sort de la salle de bain. Furieux, il est dans la chambre. Prend la chemise du comte qui est à terre et s'essuie avec. Se dit, c'est la faute de ce salaud. Merde. Ne fais faire ça. Une fois qu'il est essuyé, vite, il s'habille. Et habillé, il sort de la chambre en regardant dans le couloir, il n'y a pas personne. Vite, il est sorti, descend les escaliers. Là, en bas, il tombe sur le domestique. Le domestique lui demande, vous quittez déjà ? Elle lui dit, oui, monsieur le comte, affaire. Et il doit se préparer pour sortir. Au revoir. Au revoir. La porte s'ouvre. C'est Mathilde qui rentre chez elle. Elle voit Yann. Elle est surprise. Il demande, Yann, tu es venu me dire quelque chose ? Yann lui dit, non, je partais. Domestique, qui est stylé, et les voyants dit à sa maîtresse, parce qu'il a vu que Yann avait les cheveux mouillés, et sait qu'il a dû se passer quelque chose avec son maître, monsieur est venu rendre visite à monsieur. Elle se pose et dit, ah oui, c'est vrai, alors, et elle lui dit, ben, je l'ai vu et il se prépare pour partir, voilà. Elle le regarde bien, lui dit, mais tu as les cheveux tout mouillés, lui dit, oh, ce n'est rien. S'apprête à la quitter, elle lui dit, tu ne pars pas comme ça, viens un peu, nous allons parler. Il lui dit, gêné, je n'ai pas le temps. Elle lui dit, mais qu'as-tu? Ah, voilà, tu t'en vas si vite comme un voleur, t'en vas comme ça, je vais demander au valet d'aller chercher la police pour qu'elle voie si tu n'as rien volé. Il lui dit, pourquoi? Je t'assure que je n'ai rien volé. Il est paniqué. Elle rit et lui dit, la peur de la police, hein? Il lui dit, oui, mais tu me mets dans un état. Elle lui fait, viens, viens prendre le thé. Il lui dit, vite fait, il est furieux. Elle le prend par le bras et le mène au salon. Assieds-toi. Elle lui demande, t'as vu mon mari? Il lui dit, oui, mais il se prépare, et il doit sortir. Elle fait, ah, toujours à sortir. Elle s'assoit en face de lui. Seule pour faire venir la bonne. Elle lui demande, oui, pourquoi es-tu si pressé de partir? Il lui dit, parce que j'ai une affaire. On frappe à la porte, entrez. C'est la bonne. Elle lui dit, le thé pour trois personnes. Bien madame. Elle se retire. Elle dit à Yann, mon mari prendra certainement le thé avec nous avant qu'il s'en aille. Il se dit, elle le fait exprès ma parole, il est furieux. Elle lui demande, comment trouves-tu mon mari? Il lui dit, un peu étrange, il a de drôles de goût, rude maintenant. Elle lui dit, tu n'as pas eu le temps de bien le connaître à fond. Il lui dit, suffisamment pour le voir. Frappe à la porte, entrez. C'est la bonne avec le chariot et le thé. Elle l'amène vers eux. Mathilde lui dit, laissez, je serai servi lorsque mon mari sera ici. Bien madame. Et la bonne se retire. Mathilde lui demande, tu l'as laissé dans sa chambre? Oui. C'est lui qui t'a dit d'aller avec lui? Elle lui dit, ben, je ne sais pas si j'ai le temps de l'attendre. Je dois m'en aller, il est dans son bain. Elle lui dit, il n'en a pas pour longtemps alors. Pourquoi êtes-vous allé dans sa chambre? Elle lui dit, c'est lui qui m'a dit de l'accompagner. Elle lui dit, bizarre. Et après, ben, je suis descendu. Tu l'as accompagné jusqu'à sa chambre, la porte de sa chambre? Elle lui dit, il m'a fait entrer, nous avons parlé un peu, et puis il m'a fait partir. Elle lui demande, t'as parlé du jockey club? Non. Elle lui dit, tu dois être une lubie, hein, pas comme ça là-bas. Yann est de plus en plus ennuyé. Il lui dit, j'ai pas beaucoup de temps. Elle lui dit, il ne va certainement pas tarder. Et puis tu ne peux pas partir comme ça. Au fait, demain, tu peux m'accompagner au bal de l'opéra. Il dit, oui, si tu veux. Bien, tu viendras me chercher à 22h. Bien. Il se lève. Je dois te quitter. Elle soupire. Bon. Je me demande ce que fait mon mari. Eh, ils sortent du salon. Une fois sorti du salon, dans le couloir, elle lui dit, je vais voir ce qu'il fait. Elle panique, lui dit, non, laisse-le un peu. Il m'a dit qu'il voulait se détendre un peu. Elle lui dit, je vais tout de même voir ce qui se passe. Et elle ne sait plus. Elle lui dit, bien, je te laisse et je vais le voir. Il panique. Il la suit. Elle lui dit, mais tu n'es pas obligé de venir avec moi. Il dit, non, mais toi non plus, tu n'es pas obligé d'y aller. Il lui dit, je veux savoir pourquoi il met autant de temps pour se préparer. Il met la poignée sur la porte de sa chambre. Il lui dit, non. Elle le regarde surprise. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il ne veut pas lui dire. Il baisse les yeux. Il lui dit, vous êtes disputé? Ne dit rien. Elle ouvre la porte. Il crie « Non !» Elle ouvre ses épaules, le pousse dans la chambre et ferme la porte. « Dis-moi ce qui se passe !» ne dit rien. Fait le geste de sortir de la pièce. Elle se plaque le dos à la porte et ferme la porte à clé. Puis lui dit « Alors !» Elle le pousse au milieu de la pièce. Voit les vêtements de son mari qui traînent à terre, la chemise froissée. La prend et dit, c'est bien de lui, ça. Ramasse le linge qui est à terre et le range sur une chaise. Et demande, où est-il? Elle lui dit, il est dans la salle de bain. Elle crie, tu es là, mon chéri, dans la salle de bain? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Elle va à la porte de la salle de bain. Yann la suit. Frappe. Elle entre. Oh! Mon Dieu! Elle s'approche de la baignoire et voit le corps. Mais que s'est-il passé? Il faut appeler un médecin. Elle regarde Yann et lui demande, tu le savais? Oui, et j'allais justement appeler un médecin. Elle lui demande, mais pourquoi est-ce que tu ne disais rien? Il lui dit, j'avais peur que ça te fasse un choc. Elle se penche et voit le corps de son mari. Le retourne. Voit son visage émacié, fixe. Elle se rend vraiment compte qu'il est mort. Ça lui fait un choc. Elle se met à pleurer. Mais que lui est-il arrivé? Mon pauvre mari! Il lui dit, il est mort noyé. Dans sa baignoire, il savait nager. L'eau, il connaissait. Je ne comprends pas. Et toi? Comment as-tu su qu'il s'était noyé? Yann lui dit, tu oublies ce qu'il m'avait demandé de venir dans sa chambre et je l'ai vu. Il t'a demandé de le suivre dans sa salle de bain? Oui. Et que s'est-il passé? Yann lui dit, je peux te le dire maintenant qu'il est mort. Je peux te le dire. Il m'a demandé c'est de le laver. Elle lui fait, et alors? Il lui dit, eh bien, ça m'a dégoûté, tu comprends? Elle lui dit, il était sale? Non, mais c'était assez dégoûtant. Elle lui dit, mon mari n'a jamais été dégoûtant. Il était toujours bien lavé, alors? Eh bien, je me suis énervée, tout bêtement, et voilà. Elle lui fait, quoi? Il lui dit,
je lui ai pris la tête et l'ai plongé sous l'eau un bon moment. Ça s'est passé vite. Il n'a pas trop souffert. Elle lui dit, mais c'est dégoûtant, noyer mon mari. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire, moi? Elle lui dit, tu ne peux pas laisser chez toi. Elle lui fait, j'étais obligé d'appeler la police et de te dénoncer. Elle lui dit, surtout pas. Elle lui demande, et comment vais-je faire? Je ne peux tout de même pas le laisser comme ça chez moi. Qu'est-ce que je vais faire? Il lui dit, non, mais tu pourrais dire qu'il s'est noyé. D'ailleurs, il est mort noyé. Elle lui dit, mais on risque... Enfin, ça risque de paraître bizarre, cette noyade dans une baignoire. Tu n'as qu'à leur dire que tu es absente et que tu ne sais pas, absolument pas comment ça s'est passé. D'ailleurs, c'est la vérité. Tu n'étais pas chez toi. Elle lui dit, oui, tu as raison. Et s'ils ont besoin d'un suspect, eh bien, il y aura toi, parce que tu étais chez moi. Il lui dit, oui, mais tu n'as qu'à pas le leur dire que j'y étais. Elle lui fait, oui, mais les domestiques, eux, le savent. Il lui dit, tu leur donnes une bonne somme. Elle lui fait, et ils me font chanter le reste de ma vie. Tu vois la chose? Oh. Et tout ça pour toi. Quelle idée as-tu eu de le tuer et chez moi? Il lui dit, j'ai pas fait exprès. Ton mari était quelqu'un de dégoûtant, qui avait des goûts. Il voulait que je lui fasse des choses. Elle lui dit, t'aurais mieux fait, c'est de lui faire ces choses. Ça aurait été fini et nous serions tranquilles, et toi aussi, hein. Tandis que maintenant, ça m'ennuie beaucoup de te dénoncer. Mais je ne peux pas faire autrement, je vois aucune solution. À moins que tu caches le cadavre. Il lui dit, c'est impossible. On ne peut pas le promener comme ça. Ça se verrait. Elle lui dit, eh bien, puisque c'est comme ça, il ne me reste plus qu'à appeler la police. Il réfléchit, lui dit, peut-être le médecin avant, car s'il déclare qu'il est mort accidentellement, tu ne seras plus obligé d'appeler la police. Tu vas vite dire au domestique d'aller chercher un médecin. Mais fais vite, parce que ça pourrait paraître bizarre que tu appelles un médecin après un si long moment. Allez, préviens vite les domestiques.
Et ils sortent de la salle de bain et de la chambre.
Une fois dans le couloir, il lui dit, bon, et ben moi, je m'en vais. Elle lui demande, nous revoyons quand? Il lui dit, pas avant un certain temps, parce que tu vas avoir beaucoup de choses à faire, l'enterrement, et peut-être l'enquête et l'héritage, parce que tu vas hériter de ton mari, félicitations. Elle lui dit, merci, parce que c'est grâce à toi. Il lui dit, ce n'est rien. Il l'embrasse sur la joue. Elle lui dit, courage, et oublie de me parler de moi. Et il la quitte. Elle va prévenir le domestique au salon, qui est au salon. Elle lui dit, allez prévenir, s'il vous plaît, cherchez, s'il vous plaît, d'urgence, un médecin, le docteur Morel. Mon mari a eu un accident. Je suis navré, madame. Je vais y aller de suite.
Il court chercher le médecin. Elle,
pendant ce temps, Mathilde, essaie de se faire une tête de circonstances. Yann, rentré chez lui, y réfléchit. Il se dit qu'il risque d'avoir des ennuis. Il se dit aussi qu'il doit disparaître. La police aura sûrement des difficultés à le retrouver. Personne ne sait vraiment qui il est et d'où il vient. On l'appelait souvent Monsieur Joujou, ou Yann, et même Luc. Mais son nom de famille, il était très peu connu. Et même, personne ne le savait. Même Florence ne sait pas grand-chose de lui. Et puis, c'était un employé très spécial et pas très catholique comme travail qu'elle lui donnait à faire. Alors, elle n'aura pas trop à parler de lui à la police. Elle n'aura pas intérêt à lui parler de lui à la police. Et ses rapports qu'elle avait avec lui, elle dira qu'elle le connaissait à peine, c'était un locataire comme les autres, rien de plus. Donc, il peut disparaître sans laisser de traces. Vite, il va faire ses valises. Pendant ce temps, le docteur Morel est avec Mathilde dans la salle de bain. Le docteur est un homme, un brave homme, grand, fort, cheveux châtains, visage très agréable et bon. Il porte un costume gris. Après avoir examiné le corps, il lui dit « Il est mort. » Elle soupire. Il lui dit « Mais il me semble qu'il n'a pas dû se noyer tout seul comme ça. Son visage émacié, le corps trop penché, et puis ses rougeurs sur les membres, comme si on le tenait. On le maintenait bien fermement. On a dû le noyer dans son bain. » Elle lui dit,
ça, docteur, comment ?
Il lui dit, je ne le sais, je fais que constater. Il faut faire venir la police.
Elle lui fait, la police, mon Dieu, ils vous posent des tas de questions. Les journaux vont venir, ça va être terrible. Tout ça parce que mon mari est mort.
Le médecin lui dit, mais il faut bien qu'il y ait eu meurtre. Et puisqu'il y a eu meurtre, le coupable doit être puni.
Ça servirait à quoi? Ça ne redonnerait pas la vie à mon mari.
On pourrait penser que vous êtes coupable.
C'est impossible. J'étais absente et les domestiques le savent.
Il n'y avait personne d'autre que les domestiques, elle lui fait.
Je pense,
il lui dit, il faut de toute façon prévenir la police.
Elle lui fait, mais l'on pourrait ne rien dire.
Et si quelqu'un dit que votre mari a été assassiné, je peux avoir des ennuis, moi aussi. Allez, de toute façon, vous n'avez rien à craindre.
Ça, c'est vous qui le dites. Les gens sont tellement médisants.
Le médecin lui dit, je ne peux rien pour vous. Je vois un assassinat, je dois prévenir la police. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.